final. Alain Legrand. Pierre Mousset. L'astronomie pour tous, c'est sur Radioactive.
Bonjour à tous et bienvenue dans la tête, dans les étoiles, votre chronique astronomique sur Radioactive. Toutes les deux semaines, je suis ravi de retrouver Philippe et Alain du club d'astronomie de Saint-Ouen-les-Vignes. Bonjour Philippe, bonjour Alain.
Bonjour Jean-Pierre.
Aujourd'hui, on parle de la phrase ou d'une des phrases les plus célèbres des quatre derniers siècles. Elle nous vient du XVIIe siècle, de 1633, très exactement, et pourtant, elle tourne.
Effectivement, c'est ce qu'aurait dit Galilée à l'issue de son procès en 1633. « Et pour ses mueve », ce qui veut dire « elle se meut, elle bouge ». La Terre n'est pas immobile au centre du monde. C'est probablement une légende, cette phrase, parce qu'on imagine mal Galilée faire ce genre de déclaration juste après avoir échappé aux foudres d'Inquisition. L'atmosphère ne devait pas être terrible à ce moment-là. Et puis ensuite, on sait que Galilée n'était pas un très dangereux intégriste. Alors, Alain, comment on est arrivé à cette phrase? Comment a-t-il pu dire cette phrase s'il l'a dit?
Nous sommes au début du XVIIe siècle. En ce temps-là, la Terre est immobile au centre du monde. Du monde, on ne parlait pas encore d'univers. Autour de la Terre tournent le Soleil et les planètes. Au loin, beaucoup plus loin, la voûte céleste et les étoiles, qu'on appelait alors la sphère des fixes. Cette voûte céleste, on n'en connaît pas la nature. On ne sait pas à quelle distance elle se trouve, sinon qu'on se doute que c'est vraiment très très loin et très grand, et qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Les cieux font partie du domaine divin. Hormis le passage d'une ou deux comètes par siècle, tout y est immuable, parfait, inchangé depuis l'origine. Enfin, au moins depuis Aristote, puisque c'est là la philosophie d'Aristote sur laquelle les intellectuels se basent depuis plusieurs siècles. Plus près de la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre, accompagné de Mercure et Vénus qui tournent autour du Soleil. Les autres planètes, Mars, Jupiter, Saturne, ce sont les seules qu'on connaît à cette époque-là, agrémentent leur orbite de petites boucles fort difficiles à décrire par le calcul et que les mathématiciens ont nommées des épicycles. Les mathématiciens se donnent beaucoup de mal pour décrire ces trajectoires compliquées, mais tant bien que mal, ils parviennent à les faire coïncider, à faire coïncider les calculs et les observations.
Effectivement, voilà un système bien huilé dont on se serait volontiers accommodé, encore quelques siècles, je suppose, si quelques astronomes, peu nombreux, je crois, ne s'étaient avisés qu'en plaçant le Soleil immobile à la place de la Terre, au centre du système, on obtenait un résultat bien plus simple et bien plus rationnel, à savoir toutes les planètes, dont la Terre, tourne autour du Soleil qui est au milieu, et donc toutes ces planètes tournent sur des orbites circulaires concentriques, sans les fameuses petites boucles, mais aussi de façon très régulière. Donc le système est beaucoup plus simple à comprendre.
C'est Nicolas Copernic qui fut le premier à publier cette théorie de façon détaillée. Encore l'a-t-il publié de façon très prudente, puisque pratiquement il l'a publié quelques jours avant sa mort. Galilée, lui, qui dispose d'un instrument, en observant les phases de Vénus et les satellites de Jupiter, ne peut que se rallier à son point de vue.
Alors maintenant, on va pouvoir faire des calculs très précis. Les mathématiciens vont être très heureux.
Malheureusement, non. Parce que si ce nouveau système est élégant, il reste tout aussi imprécis que le précédent et il ne parvient pas plus que lui à coller à l'observation. Pourquoi ? C'est parce qu'en réalité, les planètes ne parcourent pas leurs orbites de façon régulière, vu qu'elles ne parcourent pas des cercles, mais des ellipses. C'est ce que Kepler a établi de façon formelle, mais que, curieusement, Galilée refuse de prendre en compte. Maintenant, je vous propose un petit jeu. Imaginons un dialogue qui pourrait se situer à cette époque. Voilà, voilà ce que j'en pense, mon cher Philippe. Il est quand même beaucoup plus rationnel de penser que c'est la Terre qui tourne sur elle-même plutôt que la voûte céleste. Si c'était la voûte céleste qui tournait, ça voudrait dire que tous les astres qui la composent ont exactement la même vitesse de rotation, bien que se trouvant à des distances très différentes.
D'accord, mais si c'est la Terre qui tourne sur elle-même, ça veut dire que si je vais sur l'équateur, je vais me déplacer, en connaissant donc la circonférence de la Terre, je vais me déplacer à 1600 km/h. C'est impossible. Je serai éjecté en l'air, dans l'atmosphère. Je serai centrifugé à cette vitesse. Sans compter en plus que si j'étais au pôle, pôle sud ou au pôle nord, eh bien là je ne bougerais pas. J'aurais une vitesse nulle. Donc c'est quand même incohérent d'avoir de telles différences de vitesse à deux endroits différents de la Terre.
Tu serais centrifugé ? Non. La vitesse angulaire de la Terre n'est jamais que d'un tour par 24 heures.
Oui, c'est vrai que ça va, c'est raisonnable, c'est assez lent. Alors, si la Terre tourne autour du Soleil en un an, vu la distance de la Terre au Soleil, à ce moment-là, si je refais bien mon calcul, la Terre se déplace à 100 000 km/h. Là aussi, c'est très rapide.
Oui, c'est effectivement, ça paraît tout à fait étonnant. Mais en fait, c'est pas plus choquant que le Soleil, 100 fois plus gros que la Terre, qui se déplacerait à la même vitesse.
Bon, ben alors, à ce moment-là, peut-être que la Terre tourne autour du Soleil, mais vous ne pouvez pas le prouver.
C'est vrai. Sans compter qu'en plus, on ne sait même pas pourquoi ces astres tournent autour du Soleil au lieu de filer tout droit dans l'espace. Quelle force peut bien les retenir ? Mais qu'en pense l'Église ? Ça nous ramène à Galilée. L'Église est puissante et influente, mais pas obtuse. Elle possède ses propres mathématiciens et astronomes, lesquels ne sont pas moins compétents que les autres. D'ailleurs, Copernic était chanoine, Kepler aussi. La nouvelle théorie héliocentrique n'est pas choquante en soi, mais l'Église déteste que l'on piétine ses plates-bandes, et elle veut garder le monopole de ce qui est divin. Elle accepte volontiers la publication et même l'enseignement de cette nouvelle théorie qu'on appelle l'héliocentrisme, à condition qu'elle soit présentée comme une simple hypothèse de travail. La science ne doit en aucun cas tenter d'expliquer ce qui est divin.
Donc si je résume, d'un côté, l'Église s'appuie sur des textes sacrés comme l'Ancien ou le Nouveau Testament, qui ne disent pas grand-chose du cosmos. Et de l'autre, les astronomes qui s'appuient sur des observations et des calculs, mais qui ne peuvent pas prouver leur théorie. Donc en définitive, la querelle n'est pas près de s'éteindre.
Et effectivement. Et ce qu'on va constater, curieusement, c'est que Galilée, qui possède l'appui de cardinaux et même de papes, à plusieurs reprises est attaqué. La nouvelle idée dérange beaucoup de gens, en plus de la personnalité de Galilée. Chaque fois, on lui donne raison, on reconnaît la qualité de ses travaux. Même le grand Clavius, qui était au service de l'Église, reconnaît la qualité des travaux de Galilée. Mais Galilée, qui est un personnage orgueilleux et polémiste, persiste malgré les avertissements de ses producteurs à répondre point par point aux arguments des opposants, ce qui l'amène à déplacer le débat sur le champ de la théologie. Et c'est là son erreur, parce que dès cet instant, ça permet à ses opposants de déclencher le procès pour hérésie.
Et alors là, que devient-il ce cher Galilée à ce moment-là ?
Alors, le procès, en fait, il est plus déclenché pour faire taire Galilée, qui incommode tout le monde, que pour défendre une théorie que, par ailleurs, l'Église elle-même reconnaît. Alors, que devient Galilée à l'issue de son procès ? Il est contraint d'abjurer ses opinions, de reconnaître la doctrine de l'Église, il est prié de remettre la Terre et le Soleil à leur place, et de se conformer aux Saintes Écritures. Ce qui est fondamental, sans chercher à les interpréter. Physiquement, il est assigné à résidence et interdit d'enseigner. Cependant, ses ouvrages ne sont pas mis à l'index, curieusement, alors que celui de Copernic, l'a été. Et ça n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que le pape autorisera officiellement la publication d'ouvrages sur l'héliocentrisme.
La tête dans les étoiles. Pierre Mousset. L'astronomie pour tous, c'est sur Radioactive.